Radio Okapi.
Six morts, toutes des femmes. Dans un éboulement hier dans la ville de Lusambo, province du Sankuru, le maire de la ville affirme que ces femmes décédées seront enterrées ce lundi au cimetière de Lusambo. Arrivé à Goma hier, dimanche et ce lundi, des détachements précurseurs des éléments des forces de défense du peuple du Soudan du Sud sont pour renforcer les effectifs de la force régionale de l'EAC. Selon le commandement de cette force, l'arrivée de ces éléments de SPLA marque la phase finale du déploiement des troupes de l'EAC dans l'est de la RDC. Professeur Dieudonné Katunga est notre invité. Il est le directeur intérimaire de l'INERA Mulungu au Sud Kivu. Il va parler de la spoliation de son espace de travail. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzito Kabambi. Un éboulement a entraîné la mort de 6 femmes. 4 autres ont été blessées grièvement hier dimanche au quartier Télécom dans la commune de Kabondo, ville de Lusambo, province de Sankuru. Le maire de la ville affirme que ces femmes décédées seront enterrées ce lundi au cimetière de Lusambo. Esther Ndalafina.
D'après Louis Manga, maire de la ville de Lusambo, les victimes se sont retrouvées ce dimanche dans un ancien puits de minerai abandonné où elles sont allées chercher les pierres pour la fabrication artisanale de gravier à vendre auprès de l'office des voiries et drainage OVD qui exécute les travaux d'aménagement de la voirie urbaine. Le maire signale cependant qu'un communiqué a été diffusé sur le média il y a quelques mois interdisant toute exploitation sur ce site pour éviter les éboulements. La même source affirme que dimanche, plusieurs femmes dont le nombre n'a pas été évoqué se sont retrouvées sur ce site pour extraire les pierres dans les puits. Après avoir creusé, un des puits s'est affaissé, engloutissant ainsi une dizaine de femmes. Le bilan provisoire fait état de 6 femmes mortes dans ce puits, 4 repêchées et conduites à l'hôpital général de référence de Lusambo. Une 5e victime vient d'être conduite ce matin à l'hôpital après avoir présenté des signes critiques la nuit dernière, précise le maire. Lui-même Manga dit prendre en charge l'inhumation des victimes ainsi que les malades gardés à l'hôpital. Il sollicite par ailleurs l'appui financier du gouvernement central et provincial pour venir en aide aux familles des défuntes et aux malades qui sont hospitalisés à l'hôpital général de référence de Lusambo. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Un autre éboulement a fait cette fois 20 victimes, toujours hier dimanche, à Bouloua, groupement Boabo, territoire de Massissi au Nord Kivu. Ce bilan est encore provisoire car les fouilles se poursuivent encore ce lundi. Un député provincial de Massissi demande au gouvernement congolais d'assister les familles victimes en organisant des obsèques dignes. Le récit des faits avec Denise Luquet-Somapanda.
Cette catastrophe naturelle s'est produite dimanche vers 11h locale. C'est lorsque la population du village Bouloua faisait la lessive et puisait de l'eau dans la rivière Kabore, une source d'eau nouvellement aménagée avec un débit important. L'éboulement survenu soudainement a enseveli plusieurs personnes dont des enfants. Le bilan provisoire fait état de 21 personnes mortes, majoritairement des femmes dont 3 enceintes et quelques enfants. Les corps ont été retrouvés grâce à la mobilisation des habitants du milieu venus à la rescousse. La fouille continue lundi pour éventuellement retrouver d'autres corps. Le député provincial de Massissi, Alexis Baunga, parle d'une situation calamiteuse qui nécessite une assistance en faveur des familles des victimes, notamment pour des obsèques dignes.
Le bilan est tellement lourd. Nous appelons donc les gouvernements congolais à pouvoir assister urgemment les familles déplorées, mais aussi demander à la population de continuer à planter des arbres pour éventuellement éviter que des catastrophes pareilles puissent survenir.
Signalons que le sol du territoire de Massissi est limono, argilé et meuble. Il peut se déplacer facilement, soit par la gravité, soit suite à une pluie torrentielle, ce qui est très souvent à la base de plusieurs érosions et éboulements de terre, parfois avec dégâts. Goma, Denise Lukeso, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. Début ce lundi dans la ville de Beni d'une série de formations organisées pour des animateurs des comités locaux de paix et de développement. Elles sont organisées par la Coordination provinciale d'appui à la pacification au Nord Kivu et le Fonds social de la République avec le financement de la Banque mondiale. Pendant 6 jours, les chefs des quartiers et autres acteurs de la société civile de Beni seront formés sur l'appropriation et la participation de la communauté à toutes les actions du gouvernement. Gédéon Kasereka, coordonnateur de la cellule provinciale d'appui à la pacification du gouvernement provincial du Nord Kivu, explique l'importance de cette formation. Il est au micro de Guylaine Kassassia.
Tout se concentre plus vers comment mettre ensemble. Donc les autorités locales et toutes les couches
de la société civile, donc tout le monde, assemble pour qu'ils construisent un cadre de travail participatif. Et maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on est venu plus dans le cadre de faux social. Vous savez qu'il est en train d'exécuter beaucoup plus de projets qui s'orientent vers la protection sociale. Et la politique de faux social avec l'appui de la Banque mondiale est que tout ce qu'il fait, il laisse ça à la communauté. Et nous, on est venu préparer la communauté pour hériter, ou soit rester en train de gérer tout ce que faux social a investi dans la ville de Beni, et ça va continuer jusqu'à Butembo et dans d'autres entités. Et donc, à l'issue de ces activités, on aura déjà des communautés préparées à rester, à hériter tout ce que la Banque mondiale et les fonds sociaux sont en train de faire dans la ville de Beni. On va travailler sur comment est-ce que les communautés doivent contribuer à faire la paix et la sécurité dans la ville, de sorte que ces infrastructures soient mises à l'abri des conflits.
S'agissant de la situation sécuritaire au Nord Kivu, notez que les détachements précurseurs des éléments des forces de défense du peuple du Soudan du Sud sont arrivés à Goma hier dimanche et ce lundi pour renforcer les effectifs de la force régionale de l'EAC. Selon le commandement de cette force, l'arrivée de ces éléments de SPLA marque la phase finale du déploiement des troupes de l'EAC dans l'est de la RDC. Cette démarche est conforme aux instructions des chefs des forces de défense et chefs d'État de l'EAC, Bernard Nyangi.
Ce premier détachement d'avance des forces de défense du peuple du Sud-Soudan, SPLA, constitué de 50 hommes, pour la plupart des officiers, est arrivé hier dimanche et ce lundi, d'autres éléments de troupes sont arrivés à Goma. Ils seront basés à Kibati, dans le territoire de Nyiragongo, avant leur déploiement sur l'axe Kibumba-Rumangabo, où ils vont cohabiter avec le contingent kenyan déjà sur place. Ces dispositifs sont conformes aux recommandations de la réunion des chefs de défense des pays membres de l'EAC du 9 février 2023 à Nairobi. L'arrivée de ces Sud-Soudanais, selon les sources du commandement de la force régionale, marque la phase finale du déploiement des troupes de l'EAC dans l'est de la RDC. Ils vont renforcer les troupes kenyanes, burundaises et ougandaises déjà en province. Toutefois, le retrait des rebelles du 23 des zones de leur déploiement reste controversé. Selon plusieurs sources, les Kenyans sont déployés à Rumangabo alors que les rebelles y sont toujours. Les Ougandais, dont les autorités avaient déjà déclaré ne pas vouloir cohabiter avec les rebelles, continuent de camper dans le Kibaya de Bunagana côté Ougandais en attendant le retrait effectif des rebelles sur l'axe Bunagana-Ruchuru-Kiwanja. Pendant ces temps, les Burundais se déploient sur l'axe Sak-Kiloliro-Kichanga-Mueso alors que les rebelles sont toujours sur place.
Pendant ce temps, le retrait des rebelles du M23 depuis hier dimanche est confirmé par plusieurs sources dans la localité de Bambou. Le constat est identique dans l'agglomération de Kishishe, chefferie de Buto, où une centaine de civils avaient été massacrés en novembre 2022. Certaines sources locales expriment cependant des doutes sur la volonté de ces rebelles à dégarnir vraiment et entièrement la zone qu'ils occupent. Blaise Chindani.
C'est depuis hier dimanche dans la matinée que les rebelles du M23 ne sont plus visibles à Kishishe et à Bambou, chefferie de Buito en territoire de Rutshuru, constatent plusieurs sources civiles contactées dans la région. Ces sources expriment cependant des doutes sur la stabilité dans cette zone. Ces sources pensent que le retrait dans les zones jugées moins importantes sont des stratégies pour renforcer d'autres positions, notamment dans les parcs nationaux de Virunga et vers Rugari et Kibumba. C'est lundi matin, nos sources parlent d'un accrochage entre les rebelles qui s'orientaient vers le parc et un groupe de Nyatura de la coalition de mouvements pour le changement, CMC. C'est dans le village de Mudugudu, en groupement de Tongo. Pendant ces temps, les rebelles avaient quitté Mueso en mi-mars avant d'y revenir en fin du mois, ce qui occasionne une instabilité dans cette zone. Signalons que les M23 sont appelés à se cantonner au Mont Sabignon et attendre le processus de désarmement de leurs troupes. Mais, 5 jours après la date butoir de leur retrait total du Masisi et Rutshuru, le 30 mars dernier, selon les instructions des chefs d'État, lors du 20e sommet de Bujumbura, rien ne semble évoluer, constatent nos sources.
En Ituri, le vice-gouverneur de la province, Alonga Boni Benjamin, est désormais le nouveau responsable de la police nationale congolaise en RDC. Il remplace à cette fonction son prédécesseur, le commissaire général Amuli Baigwa, mis à la retraite conformément à l'ordonnance présidentielle diffusée à la chaîne nationale le samedi. Qui est Alonga Boni Benjamin? Marcel Kizabiamungu nous dresse son portrait.
Née à Gemena, dans le sud d'Ubangui, la cinquantaine Révoli a fait ses études primaires à l'école Passona Bouingui et secondaire à Kotakoli avant de décrocher son diplôme d'état à l'Institut Bongisa en 1981. Il a commencé sa carrière dans l'armée comme soldat de première classe jusqu'à être élevé au grade du sergent en 1984 au sein des forces armées aïroises. Le commissaire général Alonkaboni Benjamin a été ensuite nommé sous-lieutenant ici de la 16e promotion de l'école d'officier de Kananga. Dans son parcours, il a suivi plusieurs formations militaires, notamment la spécialisation en criminologie et breveté d'état-major et autres. Il a ensuite intégré la police où il a occupé tour à tour les fonctions de commissaire général adjoint de la PNC en charge des opérations et renseignements de 2004 à 2013 avant de prendre la direction des écoles de formation au sein de la police. En mai 2021, avec l'avènement de l'état de siège, instauré par les chefs de l'État, il est désigné vice-gouverneur de la province de l'Ituri aux côtés du lieutenant général Louboyan Kachama, Johnny, gouverneur militaire. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Affaire des jeunes membres de l'UNAFEC, Union nationale des fédéralistes du Congo, qui sont morts lors des événements du 23 mars dernier à Lubumbashi, le Conseil provincial de sécurité fixe l'opinion. Le ministre provincial qui a fait la lecture des conclusions des enquêtes dresse le bilan de 8 morts. On écoute Eric Mutandala, ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou.
Le Conseil provincial de sécurité a institué une commission ad hoc pour enquêter sur les incidents malheureux survenus au niveau du pont jeté sur la rivière Naviundu. D'arrache-pied, la commission, après avoir enquêté, a déploré 8 morts, parmi lesquels 1. Un blessé par balle perdue, 7 par noyade, ainsi que 1 blessé en soins intensifs et pris en charge par le gouvernement provincial. Les enquêtes judiciaires sont menées pour déterminer les responsabilités des uns et des autres et les présumés auteurs font déjà l'objet de poursuites judiciaires. Le Conseil provincial de sécurité, tout en déplorant cet événement malheureux, présente ses condoléances les plus émues aux familles éplorées. Par rapport à l'intox qui circule sur les réseaux sociaux, pour des raisons inavouées de positionnement et récupération politicien, le Conseil provincial de sécurité met en garde tout détracteur et se réserve le droit de poursuite à tout récalcitrant et fustige ce comportement tout en appelant la population au calme.
Hier dimanche 2 avril, c'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. En RDC, l'ASBL Never Limit Children, NLC, qui milite depuis plusieurs années pour la prise en compte des droits des autistes, a programmé un certain nombre d'actions autour de cette problématique. Elle a ainsi lancé une campagne de sensibilisation hier même, ici à Kinshasa, à la place de la gare centrale, au cours de laquelle elle a interpellé la population et les autorités du pays sur le sujet. Un extrait du message de la présidente de cette ASBL, Mado Madi Afikula, choisi par Honoré.
C'est en 2007 que les Nations Unies avaient dédié la journée du 2 avril aux autistes. Donc, NLC vient de lancer une campagne de sensibilisation sur l'autisme. Ce problème d'autisme, il est mal connu ici au Congo. Alors, Never Limit Children, depuis 5 ans, milite sur la prise en charge de l'autisme et sensibilise. On ne pouvait pas passer cette journée aujourd'hui sans interpeller la population congolaise, sans interpeller le gouvernement congolais. Spécialement, j'interpelle le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé parce qu'on dit que c'est des ministères clés, bien que la prise en charge de l'autisme, c'est multisectoriel. Donc, la prise en charge aussi, l'accompagnement, il y en a plein de ministères, mais nous avons deux ministères clés, l'Éducation et la Santé.
Concernant le droit à l'éducation des autistes, par exemple, la présidente de l'ASBL NLC propose notamment l'application de la gratuité de la formation à tous les niveaux pour cette catégorie d'enfants congolais.
L'invité.
Au sud Kivu, le centre de recherche de l'INERA, Institut national d'études et des recherches agronomiques, Mulungu, toujours victime de spoliation de son espace de travail. Des centaines d'hectares destinés à la recherche sont convoités par les privés et même par certains services publics de l'État congolais. Le professeur Dieudonné Katunga, directeur intérimaire de l'INERA à Mulungu, fait le point dans cet entretien qu'il a accordé à Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Docteur professeur Katunga, bonjour.
Bonjour.
Voulez-vous d'abord nous parler de l'INERA?
L'INERA Mulungu avait d'autres concessions qu'on appelait Nyamunyuni et Chinganda. C'est toujours au compte de l'INERA Mulungu à ces jours?
Oui, c'est parmi nos grandes difficultés, puisque actuellement nous connaissons que notre pays connaît un boom démographique. Et avec le boom démographique, l'espace commence à poser problème. C'est ainsi que tout le monde a les yeux braqués sur l'espace de l'État. On pense que l'État n'existe pas. De là, on peut prendre. Et la grande difficulté, d'abord, nous avions un site de transfert des technologies agricoles. Ce site-là, c'était Nyamunyuni. Et Nyamunyuni était conçu pour la démonstration des nouvelles technologies. Cette station, nous ne l'avons plus. Alors, nous avons la concession de Chinganda, c'est vers Bunyaki, c'est ça, Chinganda vers Bunyaki. Mais nous avons un problème de spoliation là-bas. Et nous avons là 160 hectares que nous risquons de perdre comme ça, puisqu'il y a des vautours autour.
Et Nyamunyuni, c'était combien?
90 hectares.
Oui. Et il y a aussi le Barika, dans la plaine de la Ruzizi. C'était pour l'INERA Mulungu toujours. Les gens, quand ils voient la terre de l'INERA, ils pensent que c'est une terre vacante. Quand ils voient que les champs sont en jachère, ce n'est pas valorisé. Alors, les gens ne comprennent pas que la terre de l'INERA, c'est leur terre. Pour qu'ils puissent avoir de bonnes semences, ça doit venir de là. C'est comme quelqu'un qui détruit son salon. Le patrimoine INERA, nous devons le préserver puisque c'est un bien commun. C'est pour eux, c'est pour nous, c'est pour l'État. Et l'État, c'est nous tous. Et du coup, vous voyez que si par exemple on lotissait tout l'INERA Mulungu, la richesse agronomique va partir. C'est plus tard qu'ils se rendront compte de l'erreur, puisqu'on ne sera plus avoir un milieu écologique qui répond à ces conditions.
Et ici même, l'espace ici, c'est quelle superficie?
750 hectares.
Mais dans les chiffres actuels, avant, on parlait de 1114, je pense. Et la force de l'INERA, c'est sa vocation au niveau du pays. Nous sommes chargés de la recherche agronomique nationale.
Mais principalement, recherche en quoi? Quel genre de semences, quel genre de domaines?
Bon, d'une manière globale, au niveau de Mulungu, nous nous occupons de la recherche d'une manière globale qui concerne l'agriculture. Et l'agriculture, donc, vous avez les grandes composantes, ce sont par exemple les cultures industrielles. Quoi? Le théier, le caféier, le quinquina, tout ce qui est industriel. Et en principe, l'INERA qui devrait être capable d'aider les grandes exploitations à améliorer leur culture, puisque parfois ils sont confrontés soit au problème de maladie, au problème de fertilité du sol, à tous les problèmes. En dehors de ça, vous avez les cultures vivrières, notamment le blé.
Ici au sud, qui vont?
Ça pousse très bien ici. Il y a alors les cultures qui sont africaines, notamment le riz, les maniocs, les arachides, et ainsi de suite. Et l'année de même pour l'élevage.
Voilà, du côté de l'élevage aussi.
Par exemple, pour l'élevage, vous avez l'introduction de bêtes améliorées. Et ce sont des bêtes qui viennent d'Europe. Si nous prenons, par exemple, pour la production laitière, la race frisonne. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu nous a dotés d'un pays formidable où nous avons toutes ces écologies-là. Mais nous avons aussi des activités sur les légumineuses, et donc les haricots, les arachides, tout ce qui est comme légumineuses. Et nous avons sur le maïs, le riz, et les maniocs, les fruits et bananes, et sur l'élevage.
Parlez-nous maintenant de quelques appuis que vous avez avec certains partenaires.
Oui, et compte tenu de cette vocation nationale de nous occuper de la recherche agronomique, il n'y a pas un partenaire qui doit venir travailler sur l'agriculture côté recherche sans s'allier à l'INERA, d'une manière ou d'une autre, quoi. Et de ce fait, nous avons plusieurs partenaires, hein, directs et indirects. Mais ceux qui sont avec nous aujourd'hui, je pense, en termes de projet, nous avons un projet sur qui travaille sur les semences. La FAO travaille sur les semences avec nous. Donc, on travaille avec l'ITA, c'est vraiment notre partenaire privilégié. Et alors, il y a le gouvernement qui a pris un prêt de la Banque mondiale sous le chapeau de Picagel. Et on a déjà introduit trois races améliorées.
Ça, c'est toutes ces trois races, c'est pour la vache.
C'est les vaches, ce sont des races de vaches, les tiers. Mais rentre encore au gouvernement avec Picagel et la Banque mondiale, ils nous ont doté de notre centre. Il y a un grand laboratoire qui est au top. Donc quand il va fonctionner, il est beaucoup plus côté pédologie. Et donc aujourd'hui, nous avons ce laboratoire-là.
Merci beaucoup, professeur Dieudonné Katunga. Merci beaucoup.